Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, dans cette chronique des temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail, on va parler de l'armée et de l'école, c'est assez original, mais c'est ce qui est le sujet du jour, en tout cas à Caylus et à Saint-Antonin en ce moment, puisque il y a une convention entre le camp militaire de Caylus et le collège de Saint-Antonin. Donc c'est assez original. Et en face de moi, Cédric, qui est parent d'élève au collège de Saint-Antonin et qui va nous expliquer un peu ce qu'ils ont découvert ces jours-ci. C'est quoi cette convention? D'où ça sort? Et on verra ensuite le contenu.
Oui, bon, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à cette émission. Très brièvement, effectivement, c'est tout d'abord une découverte lors d'un CA où je suis représentant des parents d'élèves. Un CA du mois de février où, dans la présentation des différents matières qui sont proposées pour la rentrée septembre 2023, on a découvert une option défense, sans plus d'informations. Et à partir de là, on a fait des recherches à plusieurs parents et on a découvert qu'il y avait un projet gouvernemental qui date de 2016 avec le but de développer des classes défense sécurité globale. Ça s'appelle CDSG. Et c'est un partenariat entre le ministère des armées et le ministère de l'éducation pour promouvoir effectivement ces partenariats au sein des écoles, notamment du collège.
Alors donc une découverte, quelque chose d'assez original, qui n'est pas le seul fait donc du camp militaire de Caylus. Apparemment ça existe ailleurs, c'est en train de se mettre en place. Donc on va compter quelque part sur l'armée pour aider à éduquer nos enfants. Moi ça me fait un petit peu peur, mais on va y venir plus dans le détail. Et qu'est-ce qu'on a découvert avec difficulté, puisque j'ai compris qu'on a eu du mal, en tout cas que les parents d'élèves ont eu du mal à avoir cette fameuse convention qui n'était pas diffusée. Alors, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'elle dit cette convention?
Oui, alors effectivement, cette convention qu'on a eu seulement une semaine avant, même 7 jours avant le vote du CA, et qui, quand on regarde la convention, a été signée début avril. Donc le 3 avril, cette convention était prête.
Et donc elle a été signée avant la consultation donc du conseil d'administration dont font partie les parents d'élèves. Hein. C'est bien ce qu'il faut comprendre.
Oui, tout à fait. Et aussi avant la présentation par le professeur en charge de ce lien avec l'armée auprès des professeurs. C'est-à-dire que les professeurs n'étaient pas encore informés du contenu de la convention, etc., de ce projet.
Donc on signe d'abord une convention avec l'armée, et puis après, les profs et les parents d'élèves sont informés du contenu. Alors on y vient sur le contenu, dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il dit?
Alors les grandes lignes, effectivement, il y a des mots qui peuvent être effectivement fédérateurs autour de la citoyenneté, autour de l'environnement et du développement du les valeurs de l'armée, notamment plus précisément qu'on découvre dans la convention, qui sont pas forcément mis en valeur dans le projet pédagogique effectivement, mais qu'on trouve dans la convention autour du un mot qui revient souvent dans la convention, c'est le rayonnement des valeurs de l'armée.
Et de faire connaître, si j'ai bien compris, la profession. Alors la profession de militaire, on va voir que c'est original. Donc c'est aussi quelque part une opération de recrutement de temps ou de pré-recrutement, on peut peut-être l'appeler comme ça, avec des clauses assez particulières. On peut peut-être y venir tout de suite sur ces clauses un peu particulière sur la confidentialité et les enquêtes.
Oui, tout à fait. Alors, sur ces missions, effectivement, mise en valeur des métiers Parce que derrière cette présentation pédagogique, c'est la mise en valeur des professions de l'armée, adressée à des élèves de 3e, en l'occurrence. Je préciserai effectivement que ce programme se développe, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi dans le discours de la secrétaire d'État Sarah Lahiri. Le but, c'est effectivement de créer des métiers professionnels et aussi préparer une armée de réserve. Donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette volonté de développer ça.
Donc, sur le chapitre de la profession, faire connaître la profession. Alors, c'est assez original, puisque c'est quand même la seule profession qui n'a pas de représentant parmi ceux qui l'exercent, puisque vous le savez, les militaires n'ont pas le droit d'avoir de syndicat, ils n'ont pas le droit d'avoir de représentant du personnel, ils sont liés à l'obéissance absolue, ils sont globalement, on y reviendra, privés de leurs droits de citoyen, mais c'est une référence qu'on va nous inculquer à l'école, faire connaître la profession, ça fait un petit peu peur, puisque la profession, c'est quand même aux gens de la défendre via leur syndicat et leurs représentants du personnel, mais c'est donné en exemple. Voilà pour le sujet de la profession. Alors le souci, c'est faire connaître les valeurs de l'armée par les militaires eux-mêmes. Je suis pas sûr qu'ils en soient les mieux placés. Je crois que c'est Clémenceau qui avait dit que la guerre était une chose bien trop sérieuse pour être confiée aux militaires. Et c'est mis en valeur. Alors moi, j'ai regardé un petit peu les valeurs de l'armée. Alors, je remonte pas à l'affaire Dreyfus, mais quand même, puisqu'on est dans la région avec cette fond, faut quand même se rappeler qu'en 1939, avant la déclaration de guerre, c'est l'armée qui a gardé et malmené, puisqu'ils souffraient en particulier de malnutrition, les républicains espagnols au camp de cette fond. Donc c'est pas le meilleur exemple, mais c'est quand même à l'armée qu'on utilise bien souvent en direction du peuple, mais bien malgré lui, pour le malmener. C'est encore l'armée en 1945. Faut savoir que les premiers votes qui ont eu lieu à la libération, à compter d'avril 45, dans les mairies, eh bien, avait une originalité. C'est que la première originalité qu'on a tous en tête, c'est la première fois qu'il y a eu le droit de vote des femmes. Mais une autre originalité dont on ne parle jamais, c'est que les officiers de l'armée avaient perdu leur droit de vote du fait précisément de leur attitude pendant l'occupation. On a eu l'utilisation de l'armée d'une façon forte en 1948 à l'encontre de la grande grève des mineurs avec 5 morts quand même. On a eu aussi l'utilisation de l'armée quelques années après, en 1950, qui a tiré également sur les grévistes à Brest avec un mort. On a eu l'utilisation de l'armée pendant la sale guerre de l'Algérie. Enfin, je ne sais pas s'il existe des guerres qui ne sont pas sales, mais quand même, l'utilisation de la torture qui a été couverte et qui est encore couverte aujourd'hui avec une loi d'amnistie qui interdit toujours d'ailleurs de désigner les tortionnaires. Donc, on a quand même un certain nombre de faits qui font que c'est pas forcément aux militaires d'expliquer l'histoire, d'une part, et d'expliquer la citoyenneté, d'autre part. Donc, c'est quelques exemples, hein, on peut en trouver encore d'autres, avec l'extermination, puisqu'ils ont été achevés, pour ceux qui n'étaient pas morts tout de suite, des indépendantistes à la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie. On a un certain nombre de faits comme ça qui font que ce ne sont évidemment pas les officiers de l'armée qui vont mettre sur la table la réalité de l'utilisation de l'armée ces dernières décennies. Voilà quelques exemples que je voulais donner, puisque là, en fin de compte, on va leur confier finalement les rênes en matière d'éducation. Alors voilà quelques exemples, et on peut peut-être parler aussi d'un autre aspect, je crois que tu l'as évoqué, la formation à la citoyenneté.
Tout à fait. La formation à la citoyenneté, alors c'est effectivement quelque chose par rapport à ce que tu as expliqué qui peut être vraiment problématique. Ça, c'est aussi les retours que j'ai eus de pas mal d'élus aussi dans la région de municipalités qui me disaient que l'association citoyenneté et armée étaient un peu compliquées, effectivement. L'armée n'est pas au centre de l'exercice quotidien de l'expérience de la citoyenneté, de la prise des décisions, de voir ce qui se passe avec la population, etc. Et c'est un peu problématique avec une notion aussi qui est aussi centrale, c'est que la citoyenneté se développe autour de la démocratie dans un endroit où c'est très hiérarchisé et on fait que ce que les supérieurs vous ordonnent, ça devient effectivement compliqué. Et je rappelle aussi puisque là c'est un des volets aussi qui justifie cette option, cet atelier défense, c'est la découverte de la mémoire du pays et l'une des mémoires historiques, notamment pour la Seconde Guerre mondiale, c'est que là, l'esprit de résistance, elle est née sur un acte fort, c'est la désobéissance. La désobéissance, effectivement, à l'ordre vichiste. Et comment enseigner de manière citoyenne la désobéissance, effectivement, selon les valeurs de l'armée. C'est là, ça devient effectivement antinomique.
Antinomique, exactement, puisque la déclaration des droits de l'homme, qui est quand même l'acte fondateur de ce qu'on peut appeler la citoyenneté en 1789, hein, citait le droit de résister à l'oppression, ce qui est complètement le contraire de l'obéissance absolue. J'avais noté pour ma part que confier à un responsable de l'armée de parler de citoyenneté, c'était un peu comme de demander à un aveugle de parler d'un tableau de peinture, puisqu'en fin de compte, ils en ont pas les caractéristiques de la citoyenneté, hein, puisqu'ils n'ont pas le droit d'expression, le droit d'expression qu'on va retrouver dans notre déclaration des droits de l'homme de 48, hein, les hommes sont libres de parler, ils ont la liberté d'opinion et d'expression, et ils ont aussi, toute personne a le droit à la liberté d'association, le droit d'adhérer au syndicat de son choix, le droit d'avoir des représentants du personnel, je l'ai dit tout à l'heure. Donc en fait, c'est ce qui va caractériser la citoyenneté. Eh bien, on demanderait à des gens qui ne pratiquent pas et même qui développent les idées un peu contraires, c'est à l'obéissance, finalement, d'expliquer ce que c'est que la citoyenneté. Donc, c'est un non-sens, comme tu viens de le dire. Ouais. Et il y a peut-être aussi quelque chose à relever sur la question de l'éducation. C'est quoi l'éducation?
Tout à fait. Alors, et effectivement, l'éducation aussi qui est portée, c'est aussi une tradition aussi, normalement aussi, dans la République française, de l'esprit critique. Et c'est vraiment aussi un socle aussi de la formation à la citoyenneté. Et là, c'est pareil, c'est quelque chose aussi qui peut être questionné. L'avantage, à l'heure actuelle, il faut bien avouer que ce projet est porté par un professeur ambitieux en termes de pédagogie, qui est super intéressant autour de ça. Mais après, on peut se poser la question, effectivement, si ce partenariat lui permettra aussi, au long cours, de développer aussi ce projet autour de l'accès à la citoyenneté, autour de l'esprit critique. La justification à l'heure actuelle, par exemple, de ce partenariat, il est d'ordre financier. Effectivement, on est dans un contexte où l'éducation n'a plus de moyens, la santé n'a plus de moyens, et là l'armée a un budget extraordinaire voté là actuellement. C'est effectivement le poids financier a un impact dans les choix effectivement pédagogiques. J'ajouterais aussi une autre chose aussi qui permet de contextualiser les choses, c'est que l'entrée aussi de l'armée passe par un droit de surveillance à l'intérieur du collège. C'est-à-dire que ça, c'est un dispositif aussi illégal pour avoir droit pour les jeunes d'entrer dans le camp. L'armée se réserve de refuser certaines personnes en fonction de leur profil, du profil des familles. C'est-à-dire que légalement, l'armée aura le droit de mener des enquêtes sur des familles, sur des personnes. Donc je mets juste un contexte aussi. Imaginez qu'aux prochaines élections présidentielles, on se retrouve avec un parti d'extrême droite au pouvoir. Le fait d'avoir l'armée dans le collège, il y a un endroit de surveillance qui est possible. Et je ferai juste le parallèle avec certaines dictatures en Amérique latine dans les années 70 et qui avaient ce partenariat et qui permettaient effectivement d'entrer, de surveiller à l'intérieur de l'école ce qui se passait dans la famille. Donc ça, c'est pas non plus anodin. Je rappellerai que 2023, on fêtera le 11 septembre 2023, ce seront les 50 ans du coup d'État de Pinochet. Et c'est une triste aussi anniversaire qu'on a fêté avec l'entrée de l'armée au collège de Saint-Antonin.
Alors, des enquêtes dans les familles par rapport au fait que les enfants pourraient mettre les pieds au camp militaire de Quélus. Donc, c'est tordu, mais c'est écrit dans le projet avec en plus deux compléments. C'est-à-dire pas de justification, droit de refus d'entrée des enfants au camp militaire. Donc, il n'y a pas d'explication à donner en cas de refus. Et il n'y a pas non plus de voie de recours. C'est marqué dans la convention. Donc, c'est extraordinaire, mais c'est quand même écrit. Donc, cette porte d'entrée à la surveillance des parents via les enfants, soi-disant parce qu'il y aurait des choses extraordinaires à découvrir au camp militaire de Quélus, il fallait quand même pouvoir l'écrire, et c'est écrit. Alors, sans tout dire sur cette convention, il y a aussi un passage qui pourrait nous faire rire, c'est... moi, j'ai compris que le camp militaire de Quélus était bio. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ?
Là, c'est pareil, effectivement. Bon, je pense que c'est au niveau des projets aussi pédagogiques. Il faut cocher aussi plusieurs cases. La citoyenneté, effectivement, en fait partie. Quand on veut monter un projet, si on met ça là-dessus, on peut avoir des subventions, on entre dans les clous. Et actuellement, effectivement, la dimension environnementale aussi est importante. Donc, on a été surpris de voir apparaître ça. Alors, c'est très rapide. Dans le projet, c'est juste de dire que grâce à ce partenariat, le collège et les élèves vont pouvoir rentrer dans le camp de Quélus qui comprend autour de 6000 hectares, donc avec cette idée qu'ils vont pouvoir découvrir la faune et la flore. Comme si, effectivement, le camp de Quélus était une zone de biodiversité protégée. Quand on sait, effectivement, que le camp de Quélus est un endroit de commando, il y a des opérations, les habitants de Quélus savent bien qu'ils entendent avec leurs oreilles qu'il y a et régulièrement des explosions, des tirs, etc. On peut se poser la question sur la biodiversité de cet espace.
Alors donc, on fait également une grande découverte, mais on n'est pas après, je dirais, pour se moquer du monde, c'est que pour avoir de la biodiversité, il faut des camps militaires. Et donc, on oublie les coups de canon, comme tu l'as expliqué, on oublie les milliers de tonnes de carburant dans les airs et sur terre qui sont consommés. Donc, les camps militaires, c'est bio, il fallait le savoir, puisque on n'aurait pas pu le deviner si ça n'avait pas été écrit quelque part.
Là, voilà. Je rappellerai qu'il y a eu des manœuvres, c'était au mois de mars, à Saint-Antonin-Meble, Saint-Antonin-Nombleval, comme il y a eu depuis le début de l'année, énormément, c'était un mois de développement dans toute la Occitanie, et j'ai eu de retour de beaucoup de parents qui m'ont dit qu'ils ont entendu des tirs et ils n'ont pas été prévenus. Et avec, sur le sol, ils ont retrouvé beaucoup de douilles qui n'ont pas non plus été récupérées. Donc, c'est aussi une extension, on est aussi dans un contexte où on multiplie ces manœuvres, etc. Et c'est pas anodin. Et l'entrée, encore une fois, à travers ce partenariat, dans cet espace normalement clos, préservé, où la jeunesse a un espace. Le collège était aussi un espace dans le cadre où, très incertain de la crise du Covid, etc., le collège était l'endroit préservé qui permettait aussi aux jeunes de se retrouver ensemble, etc. Et on voit que cet endroit-là, il n'est plus protégé. L'armée, effectivement, peut entrer et utiliser, on n'a pas encore utilisé ce mot-là, recruter.
Donc, faire passer des messages à nos jeunes sur les bienfaits de l'armée, on a bien compris que c'est l'objectif. Faire une démarche de recrutement pour plus tard, en tout cas en deux temps. Et on est, comme tu le dis, on va aller vers le mot de la fin, dans ce contexte de militarisation, on le voit avec le budget, tu as bien fait de le rappeler, à l'Assemblée nationale. On le voit avec cette escalade à petits pas, mais escalade tout de même avec la guerre en Ukraine et maintenant dans la tentative de formatage de nos jeunes. Est-ce que on a oublié quelque chose ? d'essentiel?
Non, bah, juste rappeler, effectivement, dans un contexte social actuel où on présente l'armée comme l'ultime ressort par rapport au conflit pour avoir la paix, il y a beaucoup d'alternatives à celui-ci, notamment la place de la société civile pour régler des conflits. Là, je renverrai à la politologue Séverine Hautesserre qui a beaucoup développé ça, qui a montré que l'armée n'était pas forcément la mieux à même de régler des conflits. On voit ce qui s'est passé au Rwanda quand l'armée intervient sur des zones de conflit qui ne maîtrise pas la langue, qui ne connaît pas ce qui se passe sur place, est-ce que c'est vraiment les meilleures personnes pour régler aussi des conflits? Donc non, donnons plutôt du pouvoir aux personnes locales, encourageons-les pour régler des conflits sans passer par des armes, sans passer par un budget militaire. Donc ça, c'est aussi l'espoir. La citoyenneté peut se construire autrement du côté de la société civile, quoi. Et ça, j'y crois vraiment.
Oui, on peut dire que d'une façon générale, que ce soit dans les guerres coloniales et même un peu plus récemment au Rwanda, la France n'a pas brillé, et au Rwanda en particulier, puisqu'elle est accusée d'être à l'origine finalement du conflit qui a conduit quand même à un génocide de 800 000 personnes. Donc on a ce problème-là aussi sur les bras, c'est-à-dire le génocide au Rwanda.
Et la même époque, aussi ce qui s'est passé en Bosnie, quoi, avec le soutien, effectivement, là c'était un choix à l'époque du président Mitterrand, de soutenir plutôt coûte que coûte et aveuglément les Serbes, alors qu'ils étaient en train de massacrer la population. Donc là c'était un choix aussi militaire vis-à-vis des casques bleus, et donc c'était aussi problématique à cet endroit-là. Donc les choix aussi de l'armée à un moment donné sur des zones de conflit peuvent être aussi ne sont pas anodins, et encore une fois je reviens là-dessus sur la notion de donner une place dans ces conflits-là au choix des populations locales, à la société civile.
Bon, merci Cédric de nous avoir donné ces explications. On verra les suites. En tout cas, c'est un phénomène inquiétant. Ce que je voulais dire pour ce qui sera à moi mon mot de la fin, c'est que j'ai lu cette convention de 4 pages et je peux vous dire que sur ces 4 pages, le mot paix n'est pas prononcé une seule fois. Je pense que ça résume un petit peu l'état d'esprit des rédacteurs et que ça justifie d'autant les inquiétudes qu'on peut avoir pour nos enfants. Voilà pour cette chronique.
Oui, bah sur ce paix, juste pour vous dire qu'au moment de la manifestation du 30, c'était ce qu'on a mis en valeur, une manifestation pour l'éducation à la paix. Et c'est quelque chose, effectivement, parmi les parents qu'on tient aussi à défendre. Donc merci pour cet accueil, pour donner aussi un espace à l'information sur des sujets de société qui concernent non seulement les parents, mais la plupart des personnes actuellement. Donc merci à cet espace de communication et d'information.
Oui, puisqu'il y a eu une première manifestation il y a quelques jours maintenant, il y en aura peut-être d'autres. En tout cas, pour la paix, on a toujours de bonnes raisons de se mobiliser. Merci à tous.
Merci.
Et à bientôt.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr. Rubrique CFM Kélus.
Il est plus petit que le jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.
Oh,